Alright. Now, ladies and gentlemen, this is Rockers.
Non, on n'a pas recommencé.
Si,
on
si, si,
là, si, si, ben si. En direct.
Mais on était pas en direct,
apparemment. Non, non, vous étiez pas en direct. Vous avez appuyé sur un.
Vous l'êtes aussi.
Voilà, oui, c'est une antenne.
Alors donc, on recommence. 1, 2, 3. Jean Le Rosso.
Oh là là.
Et...
Je suis effondré.
Allez, allez.
Oh, j'ai fringant. L'effondré. L'effondré de service. Ce n'est pas possible.
Et attendez, mais là, il est tout rouge. Alors, on oublie, notre fidèle Tom, au moment où il est resté, là. Tom dit le pédagogue. Alors, ce que je vois, il est en train de...
Je suis en train d'expliquer en même temps parce qu'on a un petit stagiaire.
Les mères l'a pas faire, quoi. Déjà.
Voilà.
Oui, il est là, ouais.
Pas se gourer. En plus, je venais de lui expliquer que c'était ce bouton-là.
C'est le bordel.
Et j'ai fait l'autre.
Tout le monde aura déjà deviné qu'il s'agit de l'émission des Grignoux. Bientôt 30 ans d'existence. Toujours une entrée en matière aussi pitoyable. La semaine dernière, c'était pas brillant. Ça ne l'est pas plus cette semaine.
Bah non,
il faut le temps de se relancer. C'était les vacances il y a deux semaines.
Ça fait quand même 15 jours, quand même, que votre petit. Alors, moi, le mien, il vient plus, le mien, évidemment. Moi, les miens, je sais pas ce qu'ils ont. Les miens, hop, aussitôt.
Ah, ils se reproduisent.
Il y a des filles qui me les chipent. Il y a des filles qui me les chipent. Et après, ils se reproduisent. Et après, je les vois plus. Je leur porte donc toujours quand même une amitié éternelle, naturellement. Mais je me retrouve seul face à Jean-Loup. Je ne sais pas ce que fait Jean-Loup. quant à Tom vice.
Oui, mais, ouais. Et pourtant, je lui sers la vie. Je suis dur avec lui. Déjà, je voyais quand il expliquait au petit. Il explique à toute vitesse. Là, tu poques le bouton ici, tu remontes ici, tu remontes là, tu remontes là.
Mais après, je vais lui refaire parce que là, le générique, il dure pas longtemps.
Oh, c'est comme si vous expliquiez, je sais pas, moi, la philosophie. Antique en 1 minute 30 à peu près.
Mais ce que vous savez pas, c'est que les petits réfléchissent beaucoup plus vite que vous.
Oui, mais enfin, quand même.
Mais que vous aussi, semble-t-il.
C'est vrai.
Bref, vous écoutez les Grignoux si on est mercredi, si on est dimanche en rediffusion dans l'après-midi et en tapant sur n'importe quel site de votre choix, les Grignoux sans X, sans S. Un petit morceau. Et après, on présente quand même l'émission avec de nouveaux jingles.
Non. Pourquoi vous en rajoutez?
Je croyais, oui, il m'a promis, il m'a dit.
Oui.
Non, je ne promets jamais.
Allez, c'est pas bon, allez, balancez de la musique. Vous savez, vous appuyez là, hop, et vous montez le son. C'est parti, coupez pas le morceau à la fin.
You should know.
Voilà, et voilà. Oui, et donc, alors, faut que je me retrouve au mois de juillet. Vous savez, quand il faisait chaud et beau, qu'on était en Eul Picardie, c'est ça?
Eul Picardie. On a été voir, pour une interview exclusive, Eul Roger. Magerman. Roger Magerman, qui est, votre papa,
c'est ça,
Tom. Et qui, pour son départ en retraite, on vous avait promis.
Son départ en retraite, mais qui devrait arriver normalement.
Ça traîne autant encore.
Depuis le mois de mai de l'année dernière,
c'est ça. De faire du travail au noir.
Attendez.
En attendant.
Comme vous y allez.
Ben, c'est vous qui en parlez. Moi, j'avais pas encore parlé de ça. Je voulais parler tout simplement de ce monsieur qui, pendant toute sa vie, a écumé, a labouré, le sol picard. Et, on a été sur place parce que c'est aussi rigolo de découvrir aussi une réalité. On n'est pas dans le petit bocage, quoi. On fait pas vraiment dans le petit champ. On fait pas non plus dans le petit outil. Une lame de 12, une lame de 15 n'ont plus de secret pour nous, c'est-à-dire des moissonneuses batteuses qui vous coupent du blé de la largeur d'une autoroute, d'un seul
c'est
coup.
Ça.
Et s'il y a un petit lapin qui traverse, pas de détail, allez hop.
Moi chevreuil.
Le chevreuil, il passe dans le truc.
Et tout à fait. Et des voisins vigilants aussi, qui vous accueillent à chaque entrée de village. Hein, c'est-à-dire que en dessous de chaque pancarte qui vous annonce l'arrivée dans une commune du coin.
Non mais c'est ça.
En dessous, il y a une tête de hibou, des yeux, c'est marqué attention voisins vigilants.
Vous paranoïez. C'est ça en fait. Le Picard prend soin de lui-même. Enfin, il y a une solidarité en Picardie incroyable, jusqu'à ce que les voisins surveillent la maison de leurs propres voisins. Des fois qu'il y ait des non-picards qui viennent. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et en plus, ils préviennent. Ils préviennent, c'est marqué à l'entrée.
Précisément à l'entrée, attention, vous entrez dans une commune voisin-villigeant. Et sachez que les adhérents des voisins-villigeants sont tous reliés avec...
La gendarmerie.
Ouais, super. Bienvenue en Picardie. Ouais.
Sauf que la gendarmerie étant à 30 ou 40 kilomètres, le temps qu'ils arrivent, on a le temps de se barrer. Par contre, ils pourraient mettre, attention, nous sommes armés, parce qu'il y a il y a beaucoup d'armes qui traînent là-bas, parce que le Picard a l'air un peu chasseux quand même.
Ah bah, il y a des chasseurs, ça, c'est ouais, sûr.
Ils élèvent même des canards.
On peut pas trop aller à la pêche. Parce qu'il n'y a pas trop de cours d'eau.
Il y a des étangs.
Il y a des étangs,
ouais, c'est ça.
Mais c'est vrai qu'il y a surtout la chasse, et notamment il y a la zone militaire. Et il y a aussi quand même, il faut quand même qu'on le dise, parce qu'on n'en parlera pas pendant l'interview, mais on a visité le chemin des dames, mon bon Jean-Loup.
Parce que c'était.
Et on a été quand même entre autres à la fois surpris par la configuration, parce que pour moi le chemin des dames c'était un truc un peu qui ressemblait à Verdun. En fait c'était pas du tout ça. Les boches étaient enterré dans une espèce de grotte, la grotte du dragon.
La creute du dragon.
La creute du dragon. Et pendant plusieurs années, ils se sont bastonnés là, et c'est là que le général Nivelle a décidé en avril 17 d'envoyer les vaillants petits soldats français. Pas mal de tirailleurs sénégalais qui ont un monument d'ailleurs, ça va pas les faire renaître non plus, quoi qu'aujourd'hui ils seraient morts. En tout cas, mais sans doute de morts différentes sur un truc qui est effectivement, quand on découvre le site, on se dit ça devait être particulièrement imprenable. Et envoyer des gens se faire hacher menu comme ça sur un endroit tout pourri, ça fait mal.
Mais le grand intérêt, je sais enfin où se trouve à peu près la Picardie. Alors, c'est la Picardie inférieure ou supérieure où on était mon moteur
la Picardie du milieu.
La Picardie du médium.
Ouais, médium, parce que...
Vous n'êtes pas en basse Picardie encore.
Non, la basse Picardie, ça va être Château-Thierry, enfin tous les trucs qu'il y a tout en bas. Tout en haut, c'est Saint-Quentin, et nous, on est autour de Laon. Laon, c'est la préfecture.
Et c'est vrai, j'ai imaginé la Picardie comme une espèce de vaste Waterloo, une grande plaine plate, genre la Beauce. Non, pas du tout, c'est très vallonné.
Il y en a quand même, rappelez-vous, où son père manipulait ses engins, il se trouvait c'était quand même bien plat. Là.
Ouais, mais bon, il y a un peu de vallon, et quand tu devais faire la guerre, moi je la ferais dans le coin, parce que hop, la vieille guerre, parce qu'on savait pas trop ce qu'il y avait de l'autre côté de la petite colline, et des fois ça peut être surprenant.
Ça tombe bien, parce que c'est ce qu'ils ont fait apparemment depuis des siècles, puisque notre grande surprise en arrivant justement à côté du chemin des dames, qu'est-ce qu'on voit? Une statue de Napoléon. On dit putain, Napoléon, qu'est-ce qu'il a été foutre là en 14? On commençait à avoir l'histoire et la frise chronologique qui se mélangeait les pinceaux, sauf que nous, en fait, en 1814, Napoléon, déjà là, avait repoussé les boches en 1814. Creute du dragon, c'est un endroit tout pourri.
Et il faisait pas très chaud.
Ah, pas très chaud. Et pas très chaud dans la grotte où vous avez dû vous vêtir de... Je me rappelle de la vieille couverture sur laquelle s'était vaguement masturbé le vieux chien à Tom.
Faut oublier. Bah oui, il fallait prévoir des couvertures, il n'y en avait pas assez. Bon, bah, et je crois qu'avec avec Roger, justement, on avait la couverture de Bobby sur le dos.
Comme je me doutais que j'allais dans le Nord, j'avais une bonne vieille polaire de montagne et ça l'a bien fait. Et on ne conclura pas sans dire quand même un grand merci aux gens qui nous ont accueillis, parce que bon, c'est vrai, on sait que c'est quand même une région où il y a du voisin diligent, où on a un petit peu tendance à voter un petit peu pour des partis un peu trop pour le droit et l'ordre, mais ça reste quand même des gens accueillants qui, à mon avis, si ils ont à développer une colère, il faut pas qu'ils se trompent de victime.
Et puis pareil, qu'on parlez-vous pas du petit bocage en Bretagne, où là on est passé là des proportions, voilà, bon, on en parlera dans l'interview qui n'ont rien à voir. Allez, un petit 10, c'est parti avec, bah tiens, je pense un petit morceau des VRP.
Ouais.
Ah, c'est ce que j'aurais mis si j'avais été ma programmation.
Mais moi, c'est ma programmation, je suis toujours raccord, professionnel. Ouais. Vas-y Roger, c'est bienvenue parti. En Picard.
Bienvenue en Picardie, les vacances toujours réussies. Venez respirer le grand air derrière la centrale nucléaire. Bienvenue en Picardie, la Côte d'Azur à moitié prix. Plus de place dans le camping, il faut dormir sur le parking.
Sur le parking.
11 mois de l'année, passez à travailler. Un repos bien mérité, vive les congés. Congés payés. Accident mortel, porte de la chapelle. La caravane est ruinée et la grand-mère est enterré, oui, enterré en Picardie. Enterré en Picardie, filez les vacances pour mamie. Elle qui aimait dans les fleurs, elle a de la chance dans son malheur. Enterré en Picardie, c'est le bonheur pour la vie. Pas de problème pour l'enterrement, l'assurance marche à 100%. Cimetière, un bon plateau de fruits de mer, au restaurant du port, peut-être qu'on a eu tort. Sur la plage après-midi, le doute n'est plus permis, on court à la pharmacie, voilà la pluie. Quel ennui en Picardie, quel ennui en Picardie, quel ennui en Picardie, pas le soleil aujourd'hui, les journées ne sont pas si bien, aujourd'hui on a de la fièvre. Quel ennui en Picardie, il faut rentrer sur Paris, plus de 6 mois de calvaire en attendant. L'espoir d'hiver en Picardie, l'espoir d'hiver en Picardie, l'espoir d'hiver en Picardie, l'espoir d'hiver en Picardie, l'espoir d'hiver.
C'est maintenant devenu une habitude, les grignoux ont en chaque début d'émission et chacun leur tour une rubrique personnelle.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
C'est ça Philou, t'as tout compris, c'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un grignou.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile.
Attendez, attends, tu me laisses parler.
Vous avez fait ça, il est en train de me tirer par la violence, oh, et ça vous coupe.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Et oui, c'est ça la rubrique perso.
Ah bah c'est la rubrique à Jean-Loup.
Bah voilà, il pointe du doigt
voilà. Quelqu'un.
Non, là, c'est pour ça que je vous ai pointé du doigt.
Il a un apprenti.
Ah ouais, du coup je suis tout perturbé.
Et je me demande si d'ailleurs comment son apprenti a un petit peu de temps de libre. Je crois qu'il a déjà pigé comment il fallait faire.
Il pouvait prendre
comment il fallait pas faire. Ça tombe bien, j'ai vu notre directeur d'antenne passer. Il peut aller prendre un bulletin de préinscription. Et puis ma foi, je crois que comment on dirait.
Par contre, c'est pas un mot.
La relève est assurée. Il faudrait qu'on sépare en bons termes quelque part.
sous Hollande, on n'aurait pas pu le faire. Avec Macron, on va pouvoir le virer sans aucune indemnité.
On va lui faire un petit contrat de projet.
Ouais, éventuellement, ouais, pour le. Et justement,
bah, alors c'est à qui?
Bah, Jean-Loup. Oui, okay. Alors, bah, juste, je vais rebondir sur une petite phrase, une macronite. Voilà, le. Ah, juste, on va revenir. La démocratie, aidez-moi donc. La démocratie.
Ce n'est pas la rue.
En marche.
Ouais, c'est ça. Je supporte, mais ce n'est pas la rue. Moi, je suis désolé, monsieur Macron. La démocratie, elle est née ouf.
Ouf.
Comme il dit. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah oui. L'agora.
Toi, tu as des problèmes.
Bah non, bah, ça, c'est la Grèce antique. L'agora, c'était bon, la place, je crois qu'on dit en grec.
La
bref.
Publique.
La rue. Eh bah, la démocratie, monsieur Macron, elle est née dans la rue. Désolé de vous contredire par rapport à ça. Par contre, qu'est-ce qu'il parle bien anglais, hein? Je crois que c'est le seul président qu'on ait jamais eu sous les cinq républiques. Là, pas besoin de traducteur.
Mitterrand, pas trop mal. Non, peut-être Marc Bonnet. Il faisait peut-être du yaourt. Il avait peut-être appris le yaourt diplomatique, vous savez, comme certains chanteurs de rock parfois.
Je suis même pas sûr qu'il était bilingue, Mitterrand.
Mais en tout cas, quand il dit la démocratie, c'est pas la rue, pour un président censé incarner le renouveau, la jeunesse, etc., voilà. C'est une putain de vieille formule qu'ont toujours utilisé les présidents qui ont des problèmes avec, justement, des réformes qui passent mal. Donc déjà, le discours est pas original. Et en fait, l'autre jour, j'étais chez le bureaulier. Ça tombe bien, j'étais chez mon bureaulier ce matin, j'achetais ma dose de clope hebdomadaire, et il avait des infos dans le bureaulier, et on entendait, les clopes vont augmenter.
Oui, 10 euros, ouais.
Je regarde mon bureaulier, je dis, c'est marrant, pour un jeune, rien de nouveau. Donc, c'est un bonhomme, il débarque, il vous dit, c'est pas la rue qui fait les lois, rien de nouveau. Un mec qui dit que, au début, il va pas, il dit, non, il vous avait promis juré, pas de réforme des retraites, il vient de nommer un haut commissaire aux retraites, parce qu'il vient de découvrir qu'en fait, le trou, il était plus gros que prévu, c'est quand même quelqu'un qui a quitté le gouvernement juste un an avant son départ. Donc, si trou il y avait, vu le poste qu'il avait, il aurait dû le savoir, normalement, il savait pas. Bon, bref. Donc, réforme des retraites, ça, y a rien de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a rien de nouveau non plus? Bah, c'est la loi sur les ordonnances. Encore un peu plus de casse sur le droit du travail. Et puis après, on s'étonne qu'effectivement, il y ait pas mal de gens à se faire de gordes choses. Sauf Jean-Claude Mailly. Alors moi, c'est FO que je ne comprends pas.
Oui, je crois que même les membres de FO, on ne comprennent pas non plus. Enfin, c'est que j'ai vu.
Voilà. Alors FO qui, la loi El Khomri était à la pointe du combat, qui a fait chier Hollande, qui a mordu dans les basques, justement, qui gueulait sur la CFDT. Vous savez, syndicat d'accompagnement, chien galeux, piou piou, hyper énervé, le Jean-Claude, et puis là, non. Mais il faut savoir, en fait, que lorsqu'on lit le Canard enchaîné, on apprend, il n'aime pas trop le père Mailly, pas plus que la Méluche, d'ailleurs. Ils aiment pas trop la Méluche. Vous devriez acheter le Canard enchaîné. Ah, il se fait brosser le dos, il se fait étrier toutes les semaines.
Lors de la
ça
manif
vous ferait plaisir.
De mardi, justement, où il a squeezé, en apparaissant Mélenchon, il a squeezé, justement, le mouvement CGT, où il est devenu la star. Bon, bref, allez-y, continuez.
Alors ça, c'est un autre problème. Alors, du coup, Jean-Claude Mailly, c'est l'interrogation, quoi. Pourquoi est-ce que, ben voilà, ils ne couinent pas sur les ordonnances qui, somme toute, sont quand même pires que... En fait, les ordonnances, c'est tout ce qu'ils n'avaient pas pu faire passer avec la loi El Khomri. Je résume, mais on est un peu là-dedans. Et donc, du coup, on découvre, avec le Canard enchaîné, que, ben, ma foi, le père Mailly, cet été, il a eu des entretiens secrets avec Macron, et il arrive à bout de terme, en fait. Je crois que ça fait 4 mandats qu'il vient de se tirer avec la CFDT. Il va falloir qu'il pense à sa reconversion.
C'est faux.
Voilà,
ça s'arrête en avril.
Et il pense à sa reconversion. J'ai entendu parler du, je ne sais plus quoi. Je dirais des bêtises. Je me rappelle plus exactement quel fond. Mais il y a plein de conseils, l'économique et social, le Conseil d'État. Enfin bref, des espèces de postes en or qui vont faire que Mailly va se faire une retraite dorée en échange du légitime combat syndical qu'il aurait dû mener et qu'il devrait mener en ce moment contre les ordonnances. Sauf que, toujours dans le Canard enchaîné, il rappelait quand même cruellement à Mailly, ça allait chauffer pour ses oreilles parce que il y avait des fédérations un petit peu plus retordes. Et il citait notamment les fédérations de l'Ouest. Et je suis tombé. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que je garde ça au pied de mon lit? Allez savoir. Mais sur un vieil article de Ouest France, paru au mois de juin, France qui émane de Force Ouvrière, mais direction rennaise, et qui dit « Monsieur Macron nous trouvera face à lui ». Si Monsieur Macron s'obstinait à passer en force par la voie d'ordonnance, notamment cet été, pour aggraver encore le funeste loi travail, pour disloquer encore plus les garanties collectives des salariés, s'il s'obstinait à réduire les droits des privés d'emploi, etc., etc., il nous trouverait face à lui en état de légitime défense. Ça serait bien que le père Maillet, ça fait plaisir quand même de savoir qu'à l'Ouest, ça reste un peu le village gaulois, et j'aimerais bien qu'effectivement, ben c'est demain qu'il y a grève, j'espère.
Ouais, puis il y a aussi alors, les fameux routiers, non, alors les routiers, nous, c'est simple, comment ils peuvent les enculer, entrave à la circulation, on vous supprime votre permis. Ah. Par contre, il me semble que mardi aussi, quand il y a eu la grève, il y a eu des artisans forains qui ont bloqué une bonne partie de Paris.
M'a surpris que vous n'en parliez pas. Ah, mais si c'était jeudi, vous pouviez pas en
parler. Oui.
Et donc, c'était mardi dernier la grève. Vous auriez dû en parler mercredi.
On était pris avec les bananas dans le et aussi dans l'enthousiasme de la première émission.
Et quand j'ai vu ça, j'ai croisé des doigts. J'ai dit pourvu qu'ils disent pas du mal des gitans.
Pas des gitans,
des marchands forains,
des artisans forains. C'est même vous qui me rectifiez à chaque fois.
Allez-y.
C'est inférieur, c'est quand il va s'attaquer au régime de retraite spécial. Alors dans ce cas-là, que les flics partent en retraite aussi à 62 ans, 65 ans, hein, c'est courir après un ziva, ça va être pas forcément facile. Mais quand on va commencer à s'attaquer à la CNCF et à la RATP, je sais pas comment on va se démerder, parce que eux, ils ont pas plus de couilles, ils ont surtout les instruments pour bloquer la France le temps qui leur conviendra, et la manière de négocier aussi les remboursements des journées de grève.
Bah on verra en fonction de ce qu'obtiendront les routiers, parce qu'en ce moment c'est les routiers qui menacent de bloquer. Mais en tout cas, c'est bien. Moi je pensais qu'on allait avoir un septembre un peu tristounet, parce que l'effet Macron, positivons, et en fait, comme Macron ne se révèle être pas autre chose qu'un maudit énarque, sorti du sérail, les dents longues, plus malin que les autres, capable effectivement d'être élu. Alors faut se dire, il fallait voir ce qu'il avait en face de lui pour la droite, car le père Fillon a empêtré dans ses affaires de costume.
Conjonction Jupiter, enfin là il est vraiment le cul bordé de nouilles.
Il est le cul bordé de nouilles, mais il semblerait quand même que ça, c'est en train de se terminer.
Et là les nouveaux députés là qui découvrent qu'en fait être député, c'est un métier aussi, hein, quand je sais pas, on a une ferme à côté ou quand on a une boutique, comment on fait tourner sa boutique, ou on est député, ou c'est l'un ou c'est l'autre là. Donc les gaffes qui vont s'accumuler, et quand ils vont revenir dans l'euphorie des élections du mois de juin dans leur circonscription réciproque, et que tout le monde va leur tomber sur le coin de la gueule, ouais, ton Macron, espèce d'enculé. Ouais, que je pense que ces gens-là à l'origine, ils y croyaient réellement, quoi.
Et là, il va falloir qu'ils y croient.
Ah ouais, à fond, quoi.
Il va falloir qu'ils y croient. En marche, les gars.
De la sophrologie pour les républicains.
Pour en finir, on finit avec Macron, et après on met un dix, et après on attaquera autre chose. Il y a un truc qui m'a un petit peu surpris. L'autre jour, j'entends comment une ministre, je crois que c'était Schiappa.
Non, c'est même pas comment il s'appelle. Qui avait
annoncé, qui avait annoncé justement la libéralisation et l'extension de la PMA. Or, de manière totalement incongrue, c'est Gérard Collomb. Gérard Collomb, c'est le maire de Lyon, ex-socialiste, désormais En Marche. C'était un des premiers En Marche, lui. Hein. En tout cas, lui, il n'a pas fait mystère. Dès le début, il a suivi Macron. Et il a eu il a eu une récompense, le ministère de l'Intérieur. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui dit, il y a beaucoup plus urgent que la PMA. Alors, faudrait quand même rappeler à monsieur le ministre de l'Intérieur que je me demande en quoi un ministre de l'Intérieur peut être compétent pour parler de la PMA. Je sais pas. Peut-être que, effectivement, ça a à faire avec un problème de sécurité publique. En fait, c'est tout simplement un problème de bassement électoral, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de s'empêtrer, comme Hollande, vous rappelez, avec le mariage pour tous, là, qui lui a pourri la vie, puisque avec Ludivine de la Rochère, l'ultra-cato, qui manifeste la PMA, mon Dieu, les homosexuels vont se reproduire. Bref, ils n'ont pas envie de ce conflit-là, tout simplement, et je trouve ça navrant que dans un gouvernement censé incarner cycle, renouveau, recycle, eh bien, on est un ministre de l'Intérieur qui s'exprime sur la PMA et que du coup, pouf, ministre du droit des femmes a dit, oula, pop, 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 ou l'équivalent a dit, hop là, effectivement, c'est peut-être pas si urgent que ça, et elle a ramassé son dossier.
Oui, puis en plus, enfin, quelle hypocrisie, la PMA, elle existe en Belgique, au Luxembourg, partout. Bon, ce serait pas con de l'autoriser, ça éviterait que justement, certaines femmes, parce qu'il y a des listes d'attente pas possible, que ce soit en Belgique ou ce que vous voulez, aille louer le ventre d'une Roumaine ou d'une Ukrainienne, et là on tombe dans le business quelque part pour faire un gamin. C'est même hypocrisie que le cannabis, hein, quelque part c'est interdit, mais bon, par contre c'est toléré.
Un petit lix à programmation acquis à Jean-Loup.
Non, à Tom.
Alors, enfin, quels sont les bavards?
Oui, parce que vous m'avez grillé mon tour, mon cher Roger.
Comment ça se fait?
Vous avez laissé dire, on va mettre la Picardie, et puis du coup...
Eh ben, c'était votre morceau, donc...
Il était premier la dernière fois, là, il est passé deuxième, ça va pas du tout.
Non, c'était sur sa programmation.
Oui.
Et voilà.
Tant pis.
Mais on va comment ça, tant pis, j'ai encore à faire avoir.
Non, vous n'avez pas fait avoir.
Programmation à Tom, c'est normal, qu'est-ce qu'on écoute?
Ah oui.
Jacques Berry, Johnny Bigood, c'est déjà parti.
Et c'est un morceau qui est très court, ça.
Ouais.
Surprenez-moi, Roger, là, vous êtes là, j'ai une nouvelle qui va vous surprendre.
Ouais, Michel-Édouard Leclerc qui rend hommage à un musicien de rock français.
Lequel, vous allez me dire?
Eh bien, il s'agissait en fait de... Alors, attendez...
Il est mort ou pas?
C'était Vincent Lemoine, le guitariste du groupe Elmer Footbeat, plus connu sous le surnom de Twistos. Twistos, le musicien est mort d'un cancer il y a un petit mois. Et Michel-Édouard Leclerc a tenu à lui rendre hommage et raconter une anecdote comment pour le saluer, selon lequel, vous vous rappelez de la chanson c'est la caissière chez le... Voilà. Etc. Et Michel-Édouard Leclerc avait dû avoir affaire à une pétition de caissières de chez Leclerc qui ne comprenaient pas que Monsieur Édouard Leclerc, enfin Michel-Édouard, aurait pu donner son accord pour vendre ce disque-là quand on chantait des chansons, cette fameuse chanson Tirouli Tiroula. Et il a réussi à calmer l'affaire et du coup,
En donnant une prime exceptionnelle aux caissières.
Non, faut pas déconner, on est chez Leclerc quand même.
Un ticket de réduction quand même.
Ouais. Mais il se défend en disant ouais, mais bon, il avait rien consenti du tout, parce qu'il savait absolument pas qu'il y avait cette chanson-là, comme on dirait, sur le disque, naturellement. Mais du coup, il dit ouais, mais il parlait de la capote, etc., que lui aussi, il s'était battu dans les années SIDA pour populariser, la défense contre le SIDA. Donc voilà.
Et je vais vous surprendre aussi, je crois que c'est pas un fake, hein, apparemment, le Elmer Footbeat qui passe au Mondo Bizarro au mois de décembre.
Voilà, mais sans Twistos.
Voilà, bon. Voilà, peut-être triste, un hommage au personnage.
Allez, quelque chose de plus
cocasse. Oui, parce cocasse. Que je vous sens, dès, quand je suis arrivé chez vous,
désolé,
là, je vous sortais déjà noir, c'est noir.
Désolé, mais okay. Parfois la nouvelle n'est pas bonne.
On n'a pas eu d'été indien cette année pour une fois depuis 10 ans.
Les nouvelles ne sont pas bonnes. Est-ce que mon bon Tom, je suis désolé de dire ça en direct, mais ça urge, mon bon Tom pourrait appeler ma chérie pour lui dire d'enregistrer la série sur Arte, d'Arte sur le Vietnam tout de suite, parce que sinon elle allait prendre une volée.
Parce que c'est tous les soirs.
Ben ouais, pendant 9 heures. Un excellent documentaire que je recommande aux auditeurs plutôt que se faire chier à écouter les grignoux qui repasseront de toute façon dimanche.
Bah, je comprends pas, vous avez une box?
Ouais, mais vous avez un téléphone. Veux le pouvoir le garder.
Mais
je
moi,
l'enregistre pour le copier.
Bah moi, de mon téléphone, moi je peux l'enregistrer si vous voulez.
Il y a donc un excellent documentaire en 3 volets sur Arte en ce moment sur le Vietnam.
Qui dure 18 heures, hein, je crois.
Dans la version américaine, la version française, il ne dure que 9 heures, à savoir 3 heures par jour. Pendant 3 jours, mardi, mercredi, jeudi. Voilà. Ouais, carrément. Arte fait Vietnam, et je peux vous assurer que pour avoir vu les épisode de hier soir, c'était tout à fait excellent. Et du coup, j'ai pas hâte de savoir qui va gagner la guerre, ça je le sais. Mais on entend quand même des témoignages dont on n'avait jamais, dont j'avais jamais entendu parler auparavant, et notamment également la façon dont Diem a été éliminé sous Kennedy. Kennedy a laissé les généraux vietnamiens assassiner Diem. 3 jours après, lui-même était assassiné. À Dallas. Et puisqu'on est dans le amis,
ce seraient les Vietnamiens qui auraient tué.
C'est une bonne théorie. Et puisqu'on est, et sachant d'ailleurs, c'est assez curieux ce que vous dites là, parce que à cette époque-là, la mère Diem, la femme de Diem qui a été assassinée, comment dirais-je, vous tapez maison, la mère Diem qui a été assassinée, de Diem qui a été assassinée au Vietnam, était en visite aux États-Unis. Pendant l'assassinat de son bonhomme.
Et ça, c'est sûrement pas un hasard.
C'est pas un hasard. On reste dans l'Asie avec Pyongyang. Alors, vous savez, Pyongyang, c'est la capitale des fous furieux qui veulent déclencher un hiver nucléaire. Peut-être qu'ils vont y arriver, surtout qu'en face, ils ont quand même quelqu'un de très zen, monsieur Victor, Donald. Ouais. Un organe de propagande nord-coréen intitulé Comité coréen pour la paix en Asie-Pacifique a appelé hier à couler le Japon et à réduire les États-Unis en cendres. Alors moi, ce qui m'a fait rire dans cette nouvelle-là, c'est que là, il s'agit quand même du Comité coréen pour la paix en Asie-Pacifique qui a appelé à couler le Japon et à réduire les États-Unis en cendres. C'est vrai qu'en termes de soutien à la paix, on ne fait pas mieux. Je ne sais pas comment ils appellent leur ministère de la guerre, ministère de l'anéantissement total de la planète.
Et pour revenir à Donald Trump avec son discours, on va réduire la Corée du Nord ensemble. Est-ce qu'il sait où c'est la Corée du Nord? Il suffit de regarder sur une carte, tout simplement, pour comprendre rapidement que si les États-Unis attaquent la Corée du Nord, genre nucléaire, il y a la Corée du Sud qui est à côté, le Japon qui est pas très loin, la Chine qui touche. Faudrait peut-être lui dire la Corée du Nord. Non, c'est pas une île, hein, au plein milieu du Pacifique qu'on peut raser, quoi, là.
Et puis, comment dirais-je, je sais pas. Allez, une dernière nouvelle, comme ça j'aurais fini ma page. Le cardinal Barbarin. Vous le connaissez, le cardinal Barbarin?
Oui, c'est celui qui a protégé des prêtres qui sont injustement accusés d'avoir un petit peu tripoté, non? C'est pas
voilà,
ça?
Voilà, c'est ça. Or, on vient d'apprendre que l'archevêque de Lyon, Barbarin, comparaîtra avec 6 autres personnes au titre, justement, pour non-dénonciation d'agressions sexuelles et de sur mineurs commises par un prêtre dans son diocèse.
C'est compliqué, cette histoire. Allez-y, continuez.
Et ce qui m'a un peu un petit peu énervé, c'est que le diocèse a dénoncé un acharnement du tribunal. C'est vrai que les curetons qui bricolaient les petits, eux, chez eux, il n'y avait pas d'acharnement. Quand on gratte un petit peu et qu'on découvre qu'effectivement c'était pas 1, 2, 3 cas isolés, mais il s'agissait de faits généraux, de faits coutumiers qui se sont répandus pendant une éternité. Il y a quand même ça fait un petit peu mal au cul d'entendre le diocèse dénoncer un acharnement.
Est-ce que ça a été dit sous le principe de la confession moi je me souviens d'un vieux film qui m'avait marqué quand j'étais gosse américain, je suis incapable de me souvenir le titre, où un curé savait qu'il avait tué une personne, lui-même étant accusé, le curé, il ne pouvait pas parler à cause du secret de la confession. Et je me souviens que gamin, ça me perturbait, où je disais à ma grand-mère, mais pourquoi il dit pas que c'est lui l'assassin? Il a pas le droit. Ah, par contre, je sais pas, cet évêque-là, ça se trouve, je sais pas, j'essaie pas de défendre l'un ou l'autre, mais peut-être est-ce que ça a été énoncé sur le secret de la confession, j'en sais pas.
Même, je crois que le secret de la confession, mon bon Jean-Loup, ne couvre pas de pareilles horreurs.
Si, parce que
non,
c'est
un secret.
Rien du tout.
C'est un secret.
Non,
je vous le dis.
Rien.
Allez, un disque,
ouais,
et ouais, encore deux, trois bricoles.
Vous allez finir barbu, parti comme ça, là.
2010.
Everything will be alright. Well, maybe not.
Voilà, tiens, allez, je vais rebondir. Sur quoi ? Je rebondis sur le style cow-boy de comment du morceau à Jean-Loup sur la Corée du Nord. Tiens, le style cow-boy, parce que sinon on va l'oublier. Le shérif du comté de Tasco en Floride, c'est pas vraiment les cow-boys, mais bon, tout le monde peut porter un Stenson et tirer, justement parce que le shérif du comté de Tasco en Floride a envoyé des messages en disant que les idées selon lesquelles en tirant sur un ouragan on pouvait le repousser étaient totalement fausses. Et non seulement elles étaient fausses, mais pouvaient provoquer le retour des balles sur le susdit tireur. C'est en dire à quel point de conneries sont arrivées nos amis et voisins gros américains. Et c'est assez délirant, d'autant qu'en plus de ça, lorsque le shérif de Tasco a envoyé ce message-là, on croyait un fake.
Eh ben non,
il y avait vraiment des gens qui tiraient sur les ouragans.
Vous êtes sûr, ça marche pas
Sûr.
Bah au moins, attendez, il aura essayé. Ouais, imaginez peut-être que ça a marché.
En même temps, ils ont tous des flingues là-bas, donc faut bien s'en servir.
Un truc qui concerne encore les Américains. Et heureusement qu'il y a les Américains pour animer notre public, sinon on se ferait chier. Il s'appelle Joko Willink. Et Joko Willink, c'est un ancien membre des Navy Seals. Un Navy Seal, il rentre dans ta baraque, mon pote. T'entends pas la porte s'ouvrir et tu es morte sans t'en rendre compte. Tu ne sais même pas que t'es mort. Et le genre.
Je l'ai croisé quelques-uns dans ma vie.
Joko Willink. Et il a dit plutôt que de se livrer à une guerre, en utilisant des armes conventionnelles, puis après délirantes qui risqueraient de punir tout le monde, il dit pourquoi on ne larguerait pas tout simplement 25 millions d'iPhones sur les Nord-Coréens avec un satellite en géostationnaire qui alors permettrait d'avoir accès à la Wi-Fi gratuite.
Non mais ça doit se brouiller ça. Parce que il faut pas prendre les Nord-Coréens pour des cons non plus.
Et d'après un expert interrogé par le site, le concept est pas si farfelu et pourrait fonctionner, d'autant qu'effectivement ça pourrait permettre aux gens d'avoir accès à tout ce qui rate notamment, et que la réalité que leur impose le régime coréen est loin d'être la seule et la vraie, quoique, allez savoir.
Et j'ai vu un truc à la téloche, là. Faut pas prendre les Nord-Coréens pour des cons. C'est vrai qu'ils sont sous-développés au niveau peut-être agricole, industrie, etc. Mais bon, la bombe atomique, ils ont quand même... Vous avez vu, c'est une crotte, hein, la Corée du Nord. C'est grand comme la Grosse-Bretagne. Je chantais
déjà à mon oncle, la femme bricoleur, collée dans son coin.
Ils ont... est-ce qu'ils l'ont réellement? Je sais pas, mais apparemment, ils sont... ils sont réellement avancés. Les fameux hackers qui ont piraté la Maison Blanche, etc. Corée du Nord, mine de rien, quoi. Il faut pas les sous-estimer.
Ce que je leur dis, moi, Corée du Nord.
Le Diakwe, il faut le respecter. Quelles que soient ses origines, il est fourbe, c'est
encore,
bien connu.
Vous n'avez pas vu la série Vietnam.
de 9h, c'est version raccourcie.
Il y avait la gauche, le caviar, voilà, désormais venu le FN Couscous. Est-ce que vous êtes au courant du scandale de Florian Philippot qui bouffe du couscous à Strasbourg ou à Metz?
Bah, en Alsace, c'est vrai que c'est de...
Et on l'a... Oh oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il mange du couscous, comment? Et on ne sait plus quoi inventer pour évincer le Philippot. Parce que le Philippot a créé son espèce d'association.
Les patriotes.
Dites les patriotes. Il rêve peut-être, aller savoir, un petit peu d'un avenir comme En Marche. Vous savez, puisqu'après tout,
ça a marché.
Vu le nombre de partis qui ont décidé la mère Pécresse veut créer son parti, le Centre veut créer son parti. Ils sont plein à créer de nouveaux partis. Ils se sont dit, ça a marché pour Macron, ça va peut-être marcher pour nous, allez savoir. En ce moment, le père Philippot joue le bras de fer avec la mère Marine.
Peut-être que, je sais pas, je connais pas bien le terme, faut qu'on trouve un technicien alsacien. Peut-être qu'il y a tellement d'étrangers en Alsace qu'il n'y a pas moyen de manger une choucroute. Kebab, soit couscous.
Mais Florian Philippot rappelle quand même que l'Algérie était française avant l'Alsace-Lorraine. Oui,
on l'avait perdu. Oui,
et que le couscous est venu avec les pieds noirs. Alors vous voyez un peu le niveau de discours qu'il y a au niveau du Front National, c'est-à-dire que suivant ce que tu manges, tu seras ou pas dans la ligne. Je crois que quand les gens votent pour ça, ce serait quand même bien qu'ils soient au courant du niveau du débat du parti pour lequel ils votent, parce que ça fait un petit peu peur quand même.
Arriver en deuxième position présidentielle, c'est
ouais,
ça qui...
quand même.
Et oh, on a...
Et avec 5-6 députés, quand même.
Ouais. Ouais, bon, ils montent, ils avancent. ils avancent. On se met un petit disque,
Et puis
après
le temps
on lance...
de se caler l'interview.
bah donc on va revenir en Picardie. Ah,
on va revenir, non, on va y aller parce qu'on, comme on l'avait promis, on va quand même rappeler que sur l'antenne des Grignoux, des gens n'arrivent pas forcément à l'heure, mon bon Jean-Loup, et que du coup, on va peut-être rappeler que c'est une spéciale Hull Roger Baggerman.
Voilà, elle est en Normandie, j'allais dire, putain, je vais me faire tuer Picardie, c'est pas la même chose,
pas,
hein, là.
Pas tout à fait. Un charmant monsieur qui nous a bien reçu. On peut pas dire qu'on a mangé, on a mal mangé.
On a très bien mangé, quoi, là.
On a carbonisé notre taxe carbone entre ce qu'on a mangé et la distance qu'on a fait avec ma vieille voiture est bloquée dans les embouteillages.
C'est vrai qu'on a mangé.
Mais c'est sûr qu'on a mangé.
Par contre, il y a une erreur grossière au départ. À la faute à qui pourquoi on a failli mourir de soif sur la route.
La route. Et une fois qu'on est sur l'autoroute, on peut pas s'arrêter.
On peut s'arrêter.
On peut s'arrêter, mais il y a rien.
Il y a rien. Enfin, a pas rien de pas de boisson qui nous convient.
Du coup, effectivement, nous avons dû le gosier sec
en arrivant. Ouais. Mais bon, ça a pas duré très longtemps.
Et le retour, on a été rationné aussi. Le retour, on s'est rationné comme des cons. On avait oublié d'aller au supermarché.
Bah oui, petites erreurs de débutants, mais bon, on était tout content d'aller en Picardie. Et un petit mot aussi au passage, parce qu'on n'en parle pas dans l'interview. On s'est arrêté dans un cimetière militaire avec les combattants. C'était de d'août, hein, l'offensive d'août 1918.
Ouais, la dernière offensive allemande d'août 1918, au cours de laquelle, il y a eu énormément de morts, naturellement. Et côte à côte, si on peut dire, il y a un carré français. Enfin, vous imaginez bien la taille du carré. On va plutôt dire des grands rectangles.
Voilà.
Un bon hectare de français, un bon hectare d'anglais, 2 hectares d'allemands, parce que là, il y en avait un paquet. Et, on a à chaque fois, on donnait comment le nom, le prénom, etc., la date de sa mort. Et on a vu dans la partie allemande une image assez symbolique où on voit effectivement des croix allemandes qui jouxtent des étoiles de David marquant effectivement la tombe d'un soldat allemand de confession juive. Et c'est tout un symbole effectivement de voir effectivement comment les soldats allemands de toute confession ont donné leur sang. Voilà. Et comment
20 ans plus tard ça s'est mal terminé,
on a pu l'oublier aussi vite.
Voilà. Allez, on attaque là. Oh, je rappelle qu'il faisait chaud, hein. Oh,
par contre, il faisait beau. Chaud, hein. Là, c'était encore l'été.
Voilà. Et du coup, faut aller faire le moisson, rapidement. L'orage arrive.
Eh bien voilà. C'est un fait un peu exceptionnel. On a réussi à sortir Jean-Loup des studios. Et non seulement on l'a sorti des studios, mais on l'a emmené loin, loin, loin de Canal B. On l'a emmené en Picardie pour rencontrer Roger. Bonjour, Roger.
Bonjour,
Roger. Bonjour, Jean-Loup.
Bonjour, Roger. Voilà.
Et nous sommes donc en compagnie de Roger Baggerman, le papa de Tom, qu'on appelle entre nous Tom Fracasse, mais bon, ça c'est des trucs un peu intimes. Votre fiston qui est notre technicien, et puis si on est chez vous aujourd'hui, en ce 8 juillet 2017, c'est tout simplement après une longue vie de travail bien remplie,
prendre votre retraite.
Voilà, prendre votre retraite, et puis vous allez quitter le monde agricole dans lequel vous avez travaillé combien de temps ?
40 ans.
Voilà. Alors, je commence une première question, puis après je laisse la parole à Jean-Loup. Baggerman, c'est pas un nom de Picardie, ça ?
C'est un nom en flamand du nord de la France, et ça veut dire homme maigre.
Homme maigre ?
Maggerman.
Ah, c'est marrant.
Voilà.
Ça colle bien avec Tom, je trouve. Avec moi aussi, j'aurais pu m'appeler Baggerman, quelque part, là.
Donc, du coup, c'est vous ou vos ancêtres qui sont venus s'installer en Picardie ?
Mes parents sont venus s'installer dans la Somme, et ils ont repris une ferme dans la Somme de 100 hectares, et donc nous on est nés là-bas sur place, et on a fait toute notre enfance à la ferme, et après arrivé à l'âge de 18 ans, on a pris notre chemin, c'est-à-dire que moi j'ai pas pu rester sur l'exploitation. Je me suis dirigé en tant que chef de culture sur une ferme du côté de Villers-Cotterêts. Une ferme de 350 hectares, il y avait 500 moutons. Et mon patron, il avait une ferme en Argentine. Donc je suis resté là-bas 7 ans parce que en Argentine, il y a eu changement de gouvernement. Les Argentins, ils ont dit, maintenant vous nous avez bien appris à travailler, donc vous reprenez vos billes et vous repartez chez vous. Voilà, donc le fils est revenu à ma place. Donc j'étais licencié et je me suis retrouvé en 87 dans le Soissonnais sur une autre ferme comme chef de culture pendant 10 ans à Proviseur et Plénois. C'est là qu'on a élevé nos enfants et tout, Sébastien, Samuel et puis Stéphanie. Et là-bas, c'est pareil, je suis resté pendant 10 ans. Mais en 94, il y a eu un changement de gouvernement. Changement de loi au niveau des jachères. Il y a eu l'imposition des jachères en 94. Donc, on nous a dit, les gros salaires, dehors. Donc, j'ai été licencié une seconde fois. Et après, j'ai recherché du travail et je suis arrivé ici à la ferme de Moucherie en tant que salarié agricole et que j'ai fait toute la fin de ma carrière en tant que salarié agricole sur une ferme de 500 hectares et responsable avec mon employeur. On était en ce temps-là, on a travaillé pendant 10 ans avec 3 personnes, et après les autres années j'ai fini tout seul, voilà, sur l'exploitation. Et bon, c'est moi qui dirigeais l'exploitation, bah, sous les ordres de mon employeur. Voilà.
Donc vous étiez salarié agricole. C'est vrai que en Bretagne, bah, la plupart des gens sont chefs d'exploitation et le salarié agricole a disparu. Deux choses aussi qui me... c'est les chiffres, quand vous parlez de 350 hectares, 500 hectares. Oui. Pareil, en Bretagne, c'est quoi? C'est 40 hectares à peu près la moyenne des exploitations. Oui. Oui. Et une petite question, pourquoi vous n'êtes pas devenu chef d'exploitation, tout simplement? Pourquoi vous êtes resté salarié agricole?
Parce que financièrement, c'était pas possible. Et puis bon, à la conjoncture demandait vraiment. Bon, j'ai les connaissances, tout ça, mais le problème, c'est que bon, c'est des prix et des sommes effarantes pour reprendre une ferme. Hein. Et puis reprendre une ferme, il faut un minimum de 100 hectares pour dire que ça soit rentable. Sinon, en dessous, c'est l'agriculteur ne gagne pas.
Il gagne pas sa vie,
voilà. Hein.
Et alors pourquoi 200 hectares? Justement, c'est à cause du type de production que vous faites, qu'il faut absolument de l'espace comme ça?
Et qu'il faut de la surface.
De la surface?
Oui. Hein. Oui,
on précise sur les termes, là. Oui, et on parle de pièces aussi, hein, genre.
Oui.
On parle pas de champs, on parle de pièces,
voilà. Voilà, oui. Mais bon, quand il y a quelqu'un qui veut s'installer, bon, on est aidé financièrement par les chambres d'agriculture et tout ce qui s'ensuit. Mais le problème, c'est que il y a toujours des gros agriculteurs qui sont à l'affût. Dès qu'il y a une ferme à acheter, hop, c'est eux en priorité.
Voilà. Qui achètent.
Hein. Ah ben, voilà.
Ça coûte combien à l'hectare une pièce de terre ici? C'est combien une pièce de terre à l'hectare? Vous savez un peu?
Je ne sais pas exactement, mais bon, c'est entre... c'est plus de 10 000 euros, c'est plus près de 15 000 euros de l'hectare.
Ah ouais, quand même.
Donc il faut un investissement minimum de 300 000 euros pour avoir... Et là, on parle juste de la terre, on parle pas du matériel agricole.
Après, il faut un investissement matériel.
Et est-ce que vous avez une évolution dans le métier par rapport à vos débuts
Oui, une très grande évolution, parce que bon, on a démarré, on avait des tracteurs sans cabine, le matériel était beaucoup moins large qu'actuellement. Et maintenant, on a des tracteurs qui sont très puissants, et le matériel est en conséquence, c'est-à-dire beaucoup plus large.
Et c'est ce matériel qui permet à un seul homme, quelque part, de gérer 500 hectares, quoi. Qui serait complètement impossible. Oui, mais qui dit matériel, dit des investissements. On parle d'une machine qui est à côté, juste à côté, vous parliez de 500 000 euros. Et il faut plusieurs machines, tant qu'à faire, quoi.
Bon, une batteuse, il en faudrait qu'une pour un domaine comme ici. Mais le problème, c'est que le matériel, même avec le voisin qui travaille à côté de chez nous, on est obligé d'avoir chacun son matériel. Parce que bon, quand on travaille, lui travaille les terres de la même manière que nous, donc il faut le même matériel.
Et tout le monde fait la récolte de blé, par exemple, comme aujourd'hui, le 8 juillet, il fait un temps magnifique, tout le monde récolte en même temps.
Voilà.
Alors justement, donc il y a un confort, l'évolution du métier, il y a un confort.
Oui.
Et qu'est-ce qui a évolué aussi? Qu'est-ce qui vous a frappé le plus? Est-ce qu'on vous produisez la même chose qu'il y a 40 ans ou les choses ont évolué petit à petit? Hein,
on produit du moins en plus en quantitatif à l'heure actuelle sur des grosses structures. Mais le problème, c'est que nous, dans le temps, moi j'ai démarré, on faisait beaucoup plus de manuels. C'est-à-dire que donc il y avait des batteuses qui étaient beaucoup plus petites, et puis il y avait beaucoup à manœuvrer, soit des sacs, ceci, cela, que à l'heure d'aujourd'hui, tout est mécanisé avec un JCB ou beaucoup d'engins de manutention qui sont plus performants. Hein. Mais l'évolution a été très rapide.
Hein. Qu'est-ce qu'on cultive ici? On est bien en Picardie, on est dans l'Aisne,
oui.
Un peu pas très loin de Soissons, pas très loin du chemin des Dames.
Qu'on va voir ce matin.
Ah ouais, hein. impressionnant. Et qu'est-ce qu'on cultive ici alors?
Alors ici, sur l'exploitation, on fait du blé, des betteraves, du colza, de l'orge de printemps, éventuellement on fait du maïs. Et c'est tout. Auparavant, on faisait des légumes. C'était une terre qui était très légère, c'est une ferme très sableuse, donc on pouvait se permettre de faire de l'orge, des carottes, des oignons, des pommes de terre et des haricots, petits pois, tout ça. Voilà.
Il y a encore des cultures qui sont un peu exceptionnelles, parce que tout à l'heure on a été visiter un peu l'exploitation, donc les terrains sur lesquels vous avez travaillé toute votre vie,
oui,
bonne partie de votre vie en tout cas ici,
oui.
Et on a vu un champ de pavot. C'est légal ça?
C'est une nouvelle culture qui s'est implantée assez récemment, mais c'est suivi, c'est contrôlé par les gendarmes et tout.
C'est qui vous achète le pavot?
Ah, ça je ne sais pas.
Vous savez pas?
Je ne sais pas.
Et vaut mieux pas le savoir.
C'est un contrat qui est fait directement avec l'agriculteur, mais ça c'est.
Et à usage pharmaceutique.
À usage pharmaceutique, voilà.
Alors petite question, nous d'habitude avoir du maïs partout. Pourquoi il y a pas de maïs ici? Pourtant les. Est-ce que c'est la nature du sol qui veut ça ou c'est l'histoire d'humidité?
Ici, du maïs c'est plus pour faire du maïs grain. Par chez vous, c'est plus du maïs en silage pour l'élevage.
C'est-à-dire qu'ici, on consomme le maïs qui est produit, tandis qu'en Bretagne, c'est de nos animaux, c'est ça?
Voilà.
C'est-à-dire que nous, on ensile tout, c'est-à-dire l'épi et puis les branches et tout ça est mélangé et on donne ça aux bestioles.
Voilà.
Alors qu'ici, vous ne gardez que le grain.
Que le grain.
C'est qui les... Donc, j'imagine qu'ici, ce sont des grands propriétaires. C'est qui les grands propriétaires ici? Qui possède la terre ici, en Picardie, dans l'Aisne?
You
Alors, c'est qui les... Donc, j'imagine que ici, ce sont des grands propriétaires. C'est qui les grands propriétaires ici? Qui possède la terre ici, en Picardie, dans l'Aisne?
Ah ben là, c'est Monsieur Corfel qui est juste là et qui habite sur l'exploitation et qui a cédé à ses enfants.
D'accord.
Donc, ses enfants...
Ce sont des vieilles familles du coin qui se sont transmis la terre petit à petit, ou est-ce qu'on voit...
Des investisseurs.
Des investisseurs extérieurs, des banquiers, des compagnies d'assurance, etc.
Non, c'est des biens de famille qui sont revenus de... du grand-père, du père, et ainsi de suite. Voilà.
D'accord.
Et c'est une région où on vit plutôt bien l'agriculture, parce qu'on parle beaucoup du problème agricole, oui, entre les gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, quoi. Oui. Mais la Picardie est un peu épargnée par rapport à ça, quoi.
Voilà. Nous, ici, on est plus dans un secteur d'agriculture que d'élevage.
D'accord, ouais.
Voilà.
C'est vrai qu'on n'a pas vu, on n'a pas senti l'odeur de lisier propre à la Bretagne.
Voilà. On sent l'odeur de la betterave et la pomme de terre pourrie. Hein,
la betterave, pas tout le temps. Alors, la betterave, alors Tom nous a dit sur la route, oh, ici on fait des tonnes de betteraves. Alors nous, je sais qu'on en faisait un peu en Bretagne, mais c'est pas la même, pas la même betterave non, que vous faites.
Non, nous c'est de la betterave sucrière. Mmh. Voilà. Que vous, c'est plus de la betterave fourragère pour donner aux animaux. Mmh. Pareil. Mmh.
Et parmi les grandes évolutions, donc alors là il y a un confort de travail,
oui,
ce qui permet à une personne de gérer, on peut gérer combien, 500 hectares.
Oui, 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 oui.
Et
oui,
le rythme du travail, je suppose qu'il est pas le même. L'hiver c'est beaucoup plus calme.
L'hiver c'est plus calme. Oui, l'hiver c'est plus calme. Bon, après que les semis sont faits, donc on laboure avant l'hiver, avant le mois de décembre, et puis après on a une période qui est beaucoup plus calme, janvier, l'entretien matériel, et après on arrive au printemps, il y a tous les traitements à faire, et puis suivre les cultures une par une pour pas qu'il y ait de développement de mauvaises herbes, ni maladies, et ainsi de suite.
Ah, c'est vrai, on parlait de maladies, de développement de mauvaises herbes, oui, donc c'est traité à fond,
oui,
les cultures.
Traite, oui, ici on traite systématiquement pour justement pour pas qu'il y ait de maladies, pour dire qu'on ait une production saine, voilà.
C'est-à-dire que c'est vos clients, les clients qui achètent le blé, par exemple, ce sont les grandes compagnies qui fabriquent, je sais pas moi, la boulangerie industrielle, etc., c'est ça?
Ça, je ne sais pas, mais bon, nous, on vend directement à... Ici, toutes les céréales sont vendues directement à un fournisseur, un grossier, et après, c'est le grossier, une coopérative qui dispatche aux meuniers, et ainsi de suite.
D'accord. Voilà.
Et en termes de semences, c'est ce que vous avez vu évoluer les choses? Est-ce que le blé qui est planté aujourd'hui est beaucoup plus productif qu'il y a 40 ans? Est-ce qu'il y a une évolution?
Oui, il y a une grande évolution, justement. C'est plus productif maintenant qu'auparavant. Et on a des variétés qui sont étudiées en micro-culture, justement, pour avoir des variétés plus hâtives et plus productives. Voilà.
Sans tomber dans les fameuses OGM.
Voilà.
Ici, est-ce qu'on fait de l'OGM, par exemple? Vous ne faites pas d'OGM ici? Alors, ça reste un boulot. Alors, c'est vrai qu'on dit les conditions se sont améliorées en terre. Vous avez des machines plus puissantes, etc. Ça reste quand même un métier dangereux. Vous en êtes la preuve, puisque vous n'avez pas pu faire votre dernière récolte, puisque vous êtes tombé sur un engin, vous êtes cassé trois côtes.
Voilà.
Et donc, vous avez été arrêté, on va dire, juste un mois, on va dire, à peu près, juste avant de partir en retraite, quoi.
Oui, voilà.
Donc, ça reste quand même un métier qui est physique.
Qui est physique.
Agriculteur. Puis alors, je vois les jeunes là, qu'on a vus sur les engins tout à l'heure, c'est quand même pas des criquets.
Voilà. Non, mais il faut avouer que c'est quand même assez physique.
Hein? Et est-ce qu'on pourrait appeler ça un métier passion? C'est-à-dire que si on n'aime pas son boulot, est-ce qu'on tient dans ce milieu-là?
Non, il faut aimer son métier. Là. Moi, je le dis, j'adore mon métier, parce que bon, c'est vrai que au moins, on ensemence quelque chose, on voit l'évolution, la récolte qui pousse, et puis on l'amène jusqu'au bout. Comme là, la récolte, c'est le résultat final.
Mais c'est vrai, c'est assez stressant dans la période des récoltes. On imagine un orage soudain là qui tombe, c'est foutu, voilà. Quoi. Un an de travail foutu en l'air quasiment.
Ah, voilà.
Quoi.
Exact.
Et ça, on peut rien y faire.
Le facteur climatique, ça, on ne peut rien y faire.
Est-ce que, alors on parle beaucoup du réchauffement climatique en ce moment, ce week-end il fait particulièrement beau, presque aussi beau qu'en Bretagne d'ailleurs, un peu moins chaud,
un peu frais en arrivant hier soir.
Voilà. Et est-ce que vous avez commencé à ressentir un petit peu les effets de ce réchauffement climatique au cours, on va dire, des 5, 6, 10 dernières années de votre carrière?
Si. On sent qu'il y a un changement climatique parce que d'habitude on avait à chaque saison, printemps, été, automne, hiver, on avait quand même la plante, elle était au stade qu'on voulait.
D'accord.
Que l'heure actuelle, bon, le facteur climatique et le réchauffement, il nous a perturbé et on a les plantes, elles accusent le coup avec la chaleur.
Cette année, par exemple, là, on a vu là les moissonneuses batteuses. On dit plus les moissonneuses batteuses d'ailleurs. Maintenant, on dit les moissonneuses. Maintenant.
Les moissonneuses, oui.
Ouais. Elles ne battent plus.
Elles battent, mais comment?
Mais elles font plus les bottes de paille comme
voilà,
maintenant.
Voilà.
Et là, effectivement, vous nous faisiez remarquer que le blé est tout petit, quoi. Il est, il y a presque pas de chaume par terre.
Non, très peu de paille. Et justement, il est, c'est étudié aussi dans les centres de l'INRO, Institut de Recherche, pour essayer de faire moins de paille parce que ça fait du déchet à enfouir, la végétation à enfouir, et puis ça fait un matelas de paille. Si on a de la grande paille, ça fait un gros matelas de paille qu'il faut décomposer l'année d'après quand on ressème autre chose.
Voilà. D'accord. Et ça enrichissait pas la terre, ça, la paille?
Si. Ça donne un enrichissement. Voilà.
Est-ce que, comment, du coup, vous étiez donc salarié agricole. Nous, en Bretagne, comme c'est des toutes petites fermes, les salariés agricoles, c'était pas forcément les... Ils avaient déjà toujours le patron sur le dos, parce que comme c'est des petites structures, etc. Là, vous étiez libre, vous étiez tout seul dans l'exploitation.
Voilà.
Et votre patron ne venait que pour les grands moments de la saison, récolte, etc.
La récolte,
Est-ce que c'est un métier qui vous permet de... moi, je le sais, parce que vous m'avez déjà tout dit tout à l'heure, avant qu'on mange. Est-ce que c'est parce que nous, salariés agricoles, du coup, pour nous, déjà les paysans, ils gagnaient pas trop de sous, ils gagnent pas forcément trop. Les petits paysans traditionnels gagnaient pas forcément beaucoup de sous. Alors, salariés agricoles, c'était vraiment la misère. Est-ce que ici, c'est différent?
Du fait que on est tout seul sur l'exploitation, donc on a presque tout qui passe dans nos mains. Donc, il y a un certain nombre d'heures à faire, un minimum, mais. J'en fais beaucoup plus.
Il ne faut pas les compter.
Faut pas compter ses heures. Voilà. C'est pour ça que quand on aime son travail, on ne compte pas.
Mais je veux dire, en termes de salaire, du coup, on est plus près d'une paye je sais pas, vous-même, vous disiez que vous aviez presque un statut de cadre, du coup. Vous étiez chef de culture.
Presque.
C'est quoi un chef de culture, exactement?
C'est un poste à responsabilité. Voilà. C'est lui qui est responsable de faire tourner la ferme.
Donc si vous prenez une mauvaise décision, vous pouvez vous faire virer.
Si on loupe un traitement ou quelque chose, on peut être viré.
Il y a un côté quand même assez stressant parce que non seulement c'est pas votre ferme, mais vous devez la faire tourner comme si c'était la vôtre, quoi.
Voilà.
Et j'ai cru, parce que votre gendre, il est salarié agricole, on a discuté avec lui tout à l'heure. Donc ça, c'est dans la région, c'est assez fréquent, en fait, que l'exploitant agricole ne soit pas là, et que ce soit qu'il confie son exploitation à des salariés.
À des salariés, voilà.
Ça, c'est quelque chose de fréquent ici.
Ça se passe beaucoup.
Ça doit pas être évident pour un patron de trouver le bon salaire agricole.
Surtout
qu'on veut le payer le moins possible.
Le problème, c'est de trouver déjà la personne adéquate qui veuille bien travailler et puis qui veut travailler à cœur. Parce que on a des échanges avec nos employeurs quand on les voit, mais le problème, c'est que notre patron nous fait entière confiance. C'est-à-dire que moi, quand je fais des traitements, mon employeur me donne une ordonnance. Si je dois faire 0,5 à l'hectare, c'est pas, je vais pas dire, je vais mettre 1 litre ou 0,6. Non, c'est,
0,5, c'est comme ça.
Voilà.
Ouais, d'accord. Et autre question concernant justement, du coup, est-ce que, je sais pas, moi, il y a des primes, des systèmes de primes en fonction de la culture,
qualité,
ou c'est toujours en fonction de la qualité.
Qualité du travail et tout ça.
Et donc, si par exemple vous avez une récolte exceptionnelle, etc., là vous avez
c'est bonifié.
Un geste, voilà.
Ah, c'est la discrétion du propriétaire, quoi.
Voilà.
Après, c'est une certaine forme de reconnaissance, ils ont le boulot bien fait, quoi.
Voilà.
Un bon salarié, on essaie de le garder. Le plus longtemps possible.
On essaie d'être reconnaissant envers lui. C'est normal.
Vous avez travaillé combien de temps dans cette dernière exploitation-là ?
24 ans.
24 ans ? Mmh. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, justement, là, où vous êtes poqué, malheureusement, trois côtes cassées, rien.
Ouais.
Qu'est-ce que ça vous a fait de voir les petits jeunes, là, sur la moissonneuse, et puis vous, à côté de nous, en train de récolter votre...
Tell them you're gonna quit. Say you're tired of all this shit. You go and challenge the world. Tell them you're gonna quit. Say you're tired of all this shit. You go and challenge the world. For the hard times will come, but for now we're just having fun. Yeah, we're having a lot of fun. Hard times, hard times, hard times make good rhymes. But we'll soon turn this mud into gold. Yeah, we'll soon turn this mud into gold. Yeah, we'll soon turn this mud into gold. Yeah, we'll soon turn this mud into gold.
So happy, I can see that fine things happening here today. A show of strength. pleasure and to hate me. I've had enough already on my plate. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging through your flat. You see, here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leader, don't waste your trust. As their lives watch you down and their promises rust. You'll be killing machines with paper, rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give up the society wants. I'm going underground.
Alors qu'est-ce que ça vous fait justement là? Bah, vous êtes poqué malheureusement, trois côtes cassées, c'est pas rien. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir les petits jeunes là sur la moissonneuse et puis vous à côté de nous en train de récolter votre dernier blé.
Voilà. Mais bon, le problème c'est que il faut savoir s'arrêter. Déjà d'une. Bon, l'âge est là, et puis place aux jeunes.
Mmh.
Hein? Donc, ça me fait un peu quelque chose au cœur de voir que c'est le matériel que j'ai conduit pendant 25 ans, 24 ans, et puis à l'heure d'aujourd'hui, bon, bah, je suis impuissant, c'est tout.
Vous allez réussir réellement à vous arrêter ou allez faire des petits extras de temps en temps sur le garder le contact
Au mois de décembre, j'arrête.
Voilà, c'est définitif.
Définitif. Hein, si, je vais profiter d'être en retraite avec ma femme et puis voir mes enfants, mes petits-enfants, ce qui est tout à fait normal.
Oui, bien sûr. Là.
Puis bon, si on n'arrête pas, il peut comme arriver un autre accident.
Ah oui, c'est clair.
Et puis après, bénéfice net, je prends la place de quelqu'un aussi. Et puis, si je continue à travailler, il n'y aura jamais personne qui viendra me remplacer. Et puis bon, moi je dis, c'est pas le but du jeu de travailler jusqu'à 80 ans.
Bah oui, Voilà. Est-ce que cette passion de l'agriculture, vous l'avez transmise à vos enfants? Alors, je sais que Tom, en tout cas à la radio, on parle beaucoup d'agriculture biologique. Il a créé, comment lui-même dans sa propre commune à Saint-Gilles, une association dont il est président de jardins partagés, etc. Ouais. Donc déjà pour Tom fait. Est-ce que auprès de votre fils Samuel et de votre fille, vous avez également transmis cette passion?
Voilà, si. Au niveau de Samuel, il était très attiré par justement notre deuxième fils, très attiré par l'agriculture. C'est pour ça qu'il a trouvé une copine qui avait une ferme et qu'on ira voir tout à l'heure. Et qui aime son travail comme moi. Et bon, quand il était enfant, il jouait au tracteur blé et moi je travaillais à côté. Mais dès qu'il pouvait venir avec moi dans le tracteur ou dans la batteuse, il se faisait une joie.
D'accord.
Et même moi, ça me faisait plaisir aussi de l'emmener parce que bon. Notre fils, il aimait ça, donc, et c'est pour ça qu'il a continué.
Et votre fille?
Et la fille, c'était pas du tout du domaine. C'était pas. Bon, elle aimait bien ça aussi. Elle conduisait des fois le tracteur, tout. Mais c'était pas une passion pour elle, parce que bon, c'est pas facile non plus pour une fille. Mais sinon, elle aurait bien aimé aussi. Mais bon, c'était pas dans sa nature.
Voilà. Elle a quand même rencontré quelqu'un
qui est dans le milieu, quoi.
Qui fait exactement le même métier que vous.
Comme ça, ça compense.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a de... Donc ça, c'est une région, on est donc dans une région agricole, il n'y a pas d'industrie tellement à côté.
Très peu. Bon, à part les carottes, tout ce qui est légumes.
Transformation, quoi.
Transformation. Éventuellement, on y passera pour voir, acheter un œil, vite fait. Mais en allant chez sa mère, on verra peut-être des machines à carottes qui vont récolter les carottes, justement, pour la coopérative que j'explique. Mais sinon, au point de vue... usine aux alentours, il n'y a pas grand-chose.
Et la particularité du sol ici, c'est sableux, en fait. C'est du sable. Ouais. Et le sable, c'est bon pour... C'est vrai que dans l'esprit, beaucoup de gens, non, il faut de la terre, le sable, c'est pas bon.
Oui, mais le sable, des fois, ici, quand il y a des tempêtes de sable, c'est comme le Sahara. C'est des tempêtes de sable. On ne voit plus les arbres ou les éoliennes qui sont là-bas. Tellement que ça souffle. Et bon, justement, c'était bien pour les légumes. Tout ce qui était pomme de terre, parce que bon, quand on récoltait, la terre elle passait à travers les mailles et puis il restait que le fruit, c'est-à-dire la pomme de terre. Et puis tout ce qui était on récoltait ça vraiment en conditions pas sèches. Le sable n'est pas dur, il est toujours friable. Voilà.
Donc c'est plus facile à récolter tout plus simplement facile. Quoi là.
Voilà.
Et ça a un intérêt aussi pour le blé, etc. Le fait que le sable soit sablonneux, la terre soit sablonneuse.
Non, justement, plutôt. Ici nous avons deux sites. Ici on a un site qui est fort sableux, une ferme fort sableuse. On va aller avec Tom tout à l'heure montrer où j'étais avant, où on a encore l'exploitation. Là-bas, c'est une terre argileuse, voilà, avec un taux d'argile élevé.
Ouais, là, ça va être plus chiant à récolter, non ? Ça colle.
Mais par contre, les rendements sont meilleurs. Meilleurs. Que ici, le problème, c'est que le soleil, ici, il peut. Là, il y a deux jours, il a plu 20 mm. Ben, aujourd'hui, tout le monde est dans les champs.
Ouais.
Par contre, dans les terres argileuses, il faut attendre 4-5 jours.
Ouais. Pour que ça sèche ou
pour que ça descende.
D'accord.
Voilà.
Comment ça se passe entre les différentes exploitations agricoles? Est-ce qu'il y a de la solidarité? Est-ce que ça se passe comment? Du coup, c'est un peu bizarre parce que là, c'est pas le propriétaire qui est dans son exploitation. Ce sont des maîtres de culture, des chefs de culture. Je sais que nous, chez nous, en Bretagne, on est habitué là à ces mouvements de colère, parfois de manifestations sur les chefs d'exploitation qui manifestent avec leurs tracteurs. Ici, c'est pas le cas du coup.
Non, ici, par exemple, le voisin, il a un chargement de pommes de terre à faire avec un Manitou. Le Manitou tombe en panne, il y a une fuite d'huile, un tuyau qui vient de claquer. Le camion est là, aussitôt, il vient chercher le Manitou chez le voisin. Et on fait des échanges comme ça. Mais bon, dire de travailler ensemble, non, on ne travaille pas ensemble.
Sort de GAEC, il n'y a pas. De toute façon, vous avez déjà tellement d'hectares que les GAEC, c'est parce que c'était les...
Des groupements.
Les groupements, parce que c'était petit, quoi.
Voilà. Que ici, non, déjà, c'est déjà grand. Alors, c'est pas la peine de... C'est pour ça que chacun a son matériel.
D'accord. Est-ce que vous aviez quand même une partie liberté, je veux dire, pas forcément sur le choix des cultures, mais lorsque vous étiez chef d'exploitation, enfin pas chef d'exploitation, mais chef de culture, est-ce que vous aviez quand même une certaine liberté dans le choix de certains actes
Initiatives
Par exemple, je disais à mon employeur, ça serait bien qu'on ait un nouveau matériel pour travailler les terres, on irait plus vite, et puis... Et puis pour les semis et tout ça, je donne mon opinion. Voilà. Donc là, c'est pareil pour ce qui est des produits phyto. Quand on fait la commande de produits phyto, j'insiste pour qu'il y ait des produits phyto qui soient bien solubles. Parce que de temps en temps, on a des produits qui sont en poudre. Donc il y a des émanations de poudre et puis qu'on risque d'inhaler. Donc là, en liquide, il y a beaucoup moins de problèmes d'inhalation de toutes ces matières actives qui sont très dangereuses.
Et c'est vrai qu'il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a des normes aussi ? Parce que je vois des gens qui portent des masques, exemple.
On a tout. C'est obligatoire dans chaque exploitation. On a une combinaison, on a un masque, on a des gants qui sont dans le local phyto. Donc on est obligé de mettre ça systématiquement quand on traite. Le jour même qu'on a fini, on enlève, poubelle, la combinaison. Le lendemain, on retraite, on reprend une nouvelle combinaison.
Et ça, il y a 40 ans, ça n'existait pas. Ça, ah, là, non, hop, on y allait,
il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de tout ça. Ça là, c'est obligatoire.
Ça vous a pas fait un petit peu peur, là, quand on a commencé à parler de tous les problèmes, tous ces agriculteurs, là, qui
chopent les cancers avec... Si, mais bon, le problème, c'est que nous, ici, quand on fait les produits phyto pour les pommes de terre, hein, c'est un produit qui est pulvérisé.
Contre le mildiou, par
exemple. Contre le mildiou, qui est pulvérisé sur le feuillage. Mais quand il y a... entre les buttes, il y a un peu de lumière, et puis qu'on voit le sol, le produit va directement sur le sol. Hein. Dans le temps, c'était que ça. On mettait des quantités énormes de produits phyto. À l'heure d'aujourd'hui, tout est calculé justement pour diminuer un peu tous les risques de
propagation dans le sol.
De propagation dans le sol. Parce que tout ça, ça descend dans la nappe.
Ah, bah oui.
Voilà.
Est-ce que vous avez connaissez des collègues qui ont justement qui ont généré des maladies professionnelles?
Oui, des cancers et ainsi de suite. Malheureusement.
C'est reconnu comme une maladie professionnelle ou on dit, bah, c'est faute à pas de chance?
J'ai l'impression que la MSA se fait un peu tirer l'oreille pour reconnaître. C'est un peu comme pour l'amiante, quoi. Parce que le jour où ils vont reconnaître qu'effectivement il y a un problème avec l'amiante, ça va coûter cher à la Sécu. Et est-ce que effectivement le jour où la MSA sera bien forcée de reconnaître que c'est une maladie professionnelle, ça va lui coûter chaud cette plaisanterie-là.
Exact. Mais là, il faut avouer que bon, justement, il y a des centrales de produits phyto, par exemple Bayer, qui étudie justement pour qu'il y ait moins de pesticides, moins de fongicides dans les champs, tout ça.
Hein. Est-ce que les chefs d'exploitation sont sensibles à ça, là? Je ne parle pas des ouvriers, mais ceux qui sont au-dessus de vous, est-ce qu'ils sont sensibles aux
propriétaires?
Les propriétaires, ah oui, parce que bon, s'il y a quelqu'un qui vient à avoir une maladie, ils sont incriminés aussi. Hein.
D'accord, voilà. Voilà. Vous sentez qu'ils sont de plus sensibilisés pour produire autrement ou ils appliquent des normes, tout simplement? Et vous sentez qu'ils sont de plus sensibilisés pour produire autrement ou ils appliquent des normes, tout simplement
ils appliquent les normes, mais produire autrement, non, parce que bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours production. Et puis, il faut... c'est pour ça que on vise un taux de rendement, comme j'ai expliqué tout à l'heure dans le champ. On dit on veut 100 quintaux à l'hectare, 10 tonnes à l'hectare. Il faut mettre autant d'engrais, autant de fongicides, autant d'insecticides. Et normalement, si le facteur climatique passe bien, on doit réussir. Mmh. Voilà. Tout est étudié à l'INRA et tout ça par des techniciens. Qu'en mettant ces produits-là, on doit faire 100 quintaux.
Vous travaillez main dans la main, en fait, avec les laboratoires.
Avec les laboratoires, voilà.
D'accord. Oui, oui, oui,
oui. Et si on a des soucis de bouillie qui ne se mélangent pas, par exemple, un produit qui n'est pas malléable dans l'eau, on a un numéro d'accès direct avec le technicien qui nous dit, justement, il ne faut pas employer ce produit-là, il ne faut pas le mélanger. Voilà.
D'accord. Ouais.
Alors moi, on est pas dans un entrepôt, on est dans un hangar qui sert d'atelier, j'ai l'impression.
Oui.
Alors je vois, il y a une perceuse, je vois, il y a une espèce de machine à fendre le bois.
Non, une
c'est une presse.
C'est le matériel.
J'ai toujours eu l'image justement d'un agriculteur, c'est un homme à tout faire, il sait tout faire.
Ah ben oui. Eh ben ici, il faut se débrouiller tout seul.
Il faut être capable de réparer un tracteur tout seul.
Ah quoi, oui, et puis aussi bien la soudure que...
Donc vous savez tout faire, vous savez souder, vous savez construire un mur, réparer votre tracteur.
Oui. Faire l'entretien du tracteur, les vidanges, l'entretien complet, intérieur, extérieur de la cabine. Et puis s'il y a une intervention à faire sur le moteur qui est trop grave, on appelle un technicien, vraiment un garagiste. Mais sinon, non.
Et il existe des formations alors donc dans ce cas-là pour faire ouvrier agricole
oui,
en fait
oui,
là
oui.
Le, et
qui est payé par justement par nos employeurs, ils cotisent à une un syndicat de d'employeurs pour former ses salariés. Donc on a pendant les périodes creuses, on a des journées, par exemple, on peut aller apprendre à souder ou apprendre à construire un mur ou faire de l'entretien ou apprendre à pulvériser. Par exemple, pour pulvériser, avec le tonneau, j'ai un papier comme quoi que j'ai le droit d'utiliser les produits phyto. C'est pas dû à tout le monde. Et j'ai le droit de rentrer dans le local phyto. Par exemple, vous n'avez pas le droit de rentrer dans le local phyto.
Oui, parce que Jean-Loup va tout se mettre dans le nez, c'est pour ça qu'on fait gaffe.
Voilà.
Je le connais, l'autre jour il a essayé d'acheter de l'antigel, il n'y avait pas de bière. Et votre femme, alors, elle travaillait ou elle vous attendait à la maison? Elle travaillait de son côté?
Elle a toujours travaillé un peu, occasionnellement. Elle travaillait dans les champs pour faire l'entretien à la binette et tout ça. Et puis après, elle a fait la cueillette du tabac.
Voilà. Ah, voilà. Donc on cultive encore du tabac ici.
Ici on fait énormément de petites parcelles de tabac.
Voilà. C'est quel type de tabac? Tabac brun, j'imagine.
Tabac blond et brun.
Ah, blond
aussi. Oui, oui. Et c'est fait à l'usine et se trouve à Sarlat.
Oui, dans le Périgord.
Dans le sud, ça va.
Voilà.
Parce que j'avais vu effectivement ces espèces de clés là dans lesquelles on entasse les feuilles de tabac qui ressemblent un peu à des feuilles de chou là.
Oui.
J'avais vu ça dans le Périgord, mais j'en ai pas vu ici encore.
Si, par ici, il s'en fait beaucoup du fait que c'est une zone sableuse et le tabac aime bien les zones fort sableuses. Et quand il y a de la chaleur, il monte et ça fait des feuilles très larges.
Mmh. Ouais, un peu comme des feuilles de chou, ça ressemble un peu à ça, je dirais.
Ah non, ça
c'est plus grand encore.
Plus grand. Ça fait des feuilles comme ça.
Ouais. Ah, mais... Vous en avez cultivé de ça aussi du tabac?
Non.
Jamais?
Non.
Est-ce qu'il y a des trucs que vous auriez bien aimé cultiver que vous n'avez jamais fait?
Non. Non, ici, si, j'ai fait du soja. Quand j'étais dans la première exploitation, dans les années 80, du fait que mon employeur avait une ferme en Argentine, il avait ramené un petit peu de soja pour essayer sur son exploitation. Et on a développé ça pendant 3 ans, du fait qu'on avait des moutons. Le soja, on l'écrasait, puis on le donnait aux moutons.
Mmh.
Ça faisait du tourteau de soja. Voilà.
D'accord.
Non, par contre, diversifier en autre culture, non, par ici, il n'y a pas d'autres cultures à faire, du fait que c'est fort sableux, à part des légumes, c'est tout.
Alors moi, il y a aussi autre chose. Ce matin, on a visité le chemin des dames. Hein, on n'est même pas à 20 bornes du chemin des dames ici. Oui. C'était donc une zone de combat. Tom nous a dit que quand il était petit, il n'était pas rare de vous voir revenir avec une remorque remplie d'obus, enfin, ou de douilles, ou de déchets divers. Oui. Est-ce qu'il a exagéré pour nous épater, ou est-ce que c'est vrai?
Non, c'est un peu exagéré.
C'est un peu exagéré.
Mais il faut avouer que, bon, on en trouve des obus, tout ça. Mais quand même pas des quantités, pas par remorque. Non.
Il y a des accidents?
Ah, il y a des accidents, oui.
Encore aujourd'hui?
Beaucoup moins. Mais il y a quelques années, avec les outils animés, c'est-à-dire des aires rotatives, l'obus se passait entre la dent qui tournait d'un sens et puis l'autre qui tournait. Ah. Et explosion.
Alors. Et vous avez eu des collègues comme ça qui ont disparu?
Disparu, tués.
Oh la vache.
Ah oui, et puis le matériel complètement cassé, et puis même avec une cabine qui est, comment que c'est, qui est
surélevée,
et puis avec les normes de sécurité, l'obus a tout cassé.
Ah oui. Et c'est quand même du matériel guerrier qui est là depuis une centaine d'années, quoi.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a 100 ans, voilà.
Et mis à part les obus, comment vous trouvez autre chose qui nous a totalement épaté, ces espèces de météorites?
Voilà.
Alors c'est quoi ça?
Donc ça, c'est du nitrate de fer cristallisé qu'on retrouve dans le sol et qu'on récolte quand on arrache les pommes de terre. C'est un matériau assez lourd et ça reste sur les, comment que c'est, sur le. Ça reste sur la table de visite, donc ça c'est enlevé systématiquement du circuit de stockage. Voilà.
Ah oui, il fait soif, hein, là.
Il fait soif un petit peu, on se buvait une petite bière.
Alors, il y a aussi une remarque, moi, qui m'a toujours sidéré, c'est qu'apparemment, pour conduire des engins monstrueux comme ça, il n'y a pas forcément besoin de permis particulier.
Non.
C'est dingue, comment ça s'explique, ça?
Sur les terrains privés, en fait, on fait ce qu'on veut, là.
Oui, mais bon, à l'heure actuelle, on a des matériels qui roulent à 40 à l'heure, les tracteurs roulent à 40 à l'heure, avec des remorques de 24 tonnes. De temps en temps, il y a des enfants qui conduisent ça, qui ont 16 ans, des enfants de patron. Hein, donc c'est même très dangereux, mais la législation ne dit pas qu'il faut un permis.
Voilà. En tout cas, si c'était à refaire, vous referiez le même boulot, du coup.
Ah oui, j'ai toujours aimé à cœur mon travail, ça, si. Et si j'avais 20 ans, je repartirais dans
pareil.
L'agriculture. Ah oui.
Pareil.
Donc vous êtes un retraité heureux et épanoui de ma carrière passée.
Voilà. Si, c'est vrai.
Et quand on parle, petite dernière question, quand on parle d'une crise de l'agriculture, chez nous, on en entend souvent parler, crise du lait, crise de ceci, crise de cela. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir ressenti ce genre de problème dans votre type d'exploitation?
Une crise due au prix, surtout. Parce que, bon, nos employeurs nous disent que, bon, le prix du blé, le prix du colza, il est pas... En ce moment, il vaut rien. Il faut pas vendre. Hein, il faut attendre. Et puis, j'espère que les jours meilleurs arrivent. Mais il n'y a pas beaucoup d'évolution. Hein. Non. Alors, bon, c'est tout.
Et une petite question personnelle pour finir. Pourquoi vous n'aimez pas le fromage?
Ah, le fromage, moi, c'est
une vieille histoire.
Une vieille histoire, voilà.
On peut vous en dire beaucoup.
Voilà. Donc, quand j'étais chez mes parents, on était en train de planter pommes de terre chez des cousins et cousines. Et puis, j'ai eu ma mère qui m'a fait... on était en train de planter à la main, sur la machine derrière. Et puis, il était 4 heures. Il fallait s'arrêter pour goûter. On avait faim. Et puis, ma mère, elle s'est trompée de casse-croûte. Elle m'avait mis un casse-croûte avec du fromage. Et moi, rien qu'à sentir l'odeur, j'étais dégoûté. Dégoûté. Ah oui.
J'ai connu ça, ma petite quiche Lorraine, mais je vous raconterai quand vous ferez ma propre interview avant que je parte en retraite de la radio.
Voilà.
Eh bien, en tout cas, on vous remercie, Roger, de nous avoir accueillis puis de nous faire visiter votre fort belle région que l'on imaginait beaucoup plus monotone et plate.
Plate, c'est vrai.
Alors qu'en fin de compte, il y a du vallon, nos pioupiou de la guerre 14 s'en souviennent encore, malheureusement, hein, le chemin des dames.
Et c'est très boisé aussi.
Et c'est boisé, beaucoup plus boisé que ce à quoi on pouvait s'attendre, d'ailleurs. D'accord. C'est assez marrant.
Si, si.
Eh bien, écoutez, on vous remercie et puis à très bientôt.
Oui, on va revenir, je pense.
Voilà.
On reviendra pour les récoltes.
Merci,
Jean-Loup.
Hein?
Voilà, c'était un plaisir de rencontrer Roger.
C'est vrai, hein, les Roger, c'est toujours un plaisir de rencontrer.
Des gens accueillants et qui ont également une progéniture de qualité. La personne de Tom, malgré les pains, il faut bien le dire, hein, quand même, c'est un bon garçon. Et ne pas oublier sa sœur également, oui, sa charmante sœur.
Quelle spécialité?
Le maroilles aux échalotes.
Échalotes de Roscoff. C'est un peu surprenant, là.
On le fait fondre comment? Rappelez-nous la recette, mon
pote. On le coupe. Déjà, il faut un bon maroilles fermier. Donc, voilà. On le coupe en deux, dans le sens de l'horizontalité.
On a bien compris.
On coupe des petites échalotes en petits morceaux. On les met au milieu du fromage. On referme le fromage sur les échalotes. Et puis on met du d'aluminium autour et au barbecue.
Alors, est-ce qu'on peut mettre ça sur une moisseuse batteuse, sur le moteur d'une moisseuse batteuse?
Je pense que ça peut se faire.
Ça peut marcher,
ça pourrait marcher, mais c'est meilleur au barbecue. Et c'est vrai qu'on a goûté ça et c'était assez surprenant. Je dois avouer que j'étais puceau du maroilles. En ce qui me concerne, j'avais jamais mangé de maroilles de ma vie. Et par contre, on va dire que c'est plutôt un fromage d'homme.
Et d'ailleurs, il vous en reste un peu dans la barbe. Ah non, c'est la couleur naturelle. Ah oui, pardon.
C'est la couleur naturelle. Merci encore une fois l'accueil dont on a bénéficié. C'était vraiment génial parce qu'il faisait beau.
Oui.
C'était vraiment très cool. On voyait même, on n'a pas vu le Jean-Loup en short. Il n'était pas en short, hein.
Non, j'ai pas eu le temps de...
Il était en Marcel.
Ouais, pour vous dire.
Ouais, on l'a vu en Marcel. Ouais. J'ai même partagé le même lit que mon bon vieux Jean-Louis.
Ah oui, je voulais dire un truc, puisqu'il nous reste une minute. En fait, je tiens à m'excuser publiquement. Vous avez accusé de ronfleur de la mort, un sonneur pire qu'une bombarde. J'ai passé deux nuits avec vous. Rien. Zéro. Mort de bête. C'est un plaisir de dormir avec vous.
Mais vous étiez fatigué, vous étiez à la campagne, vous aviez marché dans les champs, mon bon Jean-Loup, vous étiez épuisé.
Et moi, je voulais vous remercier, vous tous les deux, d'avoir pu faire ça, parce que ça fait quand même un super souvenir pour toute la famille. Là, il y a toute la famille qui écoute. Et c'est vraiment super sympa de votre part d'avoir fait le déplacement, d'avoir réussi à ramener Jean-Loup en Picardie.
C'est vraiment sympa. C'était plus ça, en fait, le plus dur.
C'était ça le plus dur.
Est-ce qu'ils savent qu'on revient l'année prochaine, début juillet?
Oh, bah là, ils sont habitués, hein.
Ah, bon, bah, ok, là, là. Et un petit coucou quand même à Flash. Vous l'aimez bien, le Flash.
J'aime bien
également votre Flash à vous,
votre beau-frère, mon bon Jean-Loup, ainsi que votre frangin et sa charmante compagne qui collectionne, parce que dans le sol, on trouve plein de choses. Hein, vous verrez ça sur le blog des Grignoux. On trouve plein de sol, mais de choses relatives à la guerre. Mais on trouve parfois des choses encore plus vieilles, notamment des pierres polies avec lesquelles on pourrait pratiquement se raser. Et c'est assez incroyable de voir à quel point cette région a toujours été habitée, en fin de compte. Mais par contre, c'est des haches, des fusils, des pointes. C'est toujours un coin où on se tape sur la gueule.
Voilà, c'est une marche.
C'est une zone de passage.
Allez, on vous dit salut, on retourne à la semaine prochaine.
Et on vous reparlera très vite aussi, par contre, d'un festival Opération Libre. J'ai totalement oublié, c'est un peu de ma faute, Opération Libre. Une rencontre autour des outils, licence libre d'accès sur Internet. Les contenus, vous voyez, genre Wikipédia, les sources, vous savez, les open source, etc. Tout ça se tiendra le 6 et 7 octobre à Payac, les Fougerets dans le Morbihan. Ce n'est pas très loin et on reviendra là-dessus parce qu'on aura quelqu'un en direct pour nous en parler un peu avant que ça se tienne. Les 6 et 7 octobre, c'est tout à fait ce dont on essaie de vous parler depuis énormément de temps. Je suis désolé pour toi, Marie-Jo, mais j'avais oublié.
Salut, à la semaine prochaine.